Bon, ce chiour est dédié par M. Dan Biton à la mémoire de Israël ben Sonia Lea Zichrono Livracha. On se trouve donc environ une semaine avant Pessah. On va parler un peu de la fête. Après qu'on ait vu beaucoup de cours au niveau de la halakha, les lois, on va parler un peu plus de la hashkafa, la pensée, le comment et le pourquoi de cette grande fête, de cette grande soirée de Leil HaSeder. D'abord, c'est un Yom Tov. Yom Tov, traduction en français, jour bon. Il y a beaucoup de bonnes journées dans la vie. Pourquoi on appelait ce jour-là un jour bon? D'accord? En fait, c'est un camouflage pour dire que c'est un jour de lumière. Dieu, les jours de fête, il amène un flux de lumière extrêmement grand dans les neshamot, dans les âmes du peuple juif. On ne voulait pas appeler cela un jour de lumière, parce qu'on a l'habitude de cacher les choses importantes, les choses spirituelles, on les cache. Alors on a camouflé par un Yom Tov. Mais le mot Tov, en fait, la première fois, quand il apparaît dans la Torah, c'est où? C'est à propos de la lumière. Vayar Hashem, Vayar Elohim, et Taor Kitov. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc quand on parle d'un jour bon, une bonne journée, c'est un jour de lumière. Ce n'est pas un jour de lumière physique du soleil, ça y est, tous les jours sont des jours de lumière physique, on parle ici d'une lumière spirituelle. Le jour de Pessah, il y a une lumière spirituelle très grande qui vient chez nous. Si effectivement nous faisons les actes que nous devons faire le soir du Seder, tous les actes de Yom Tov permettent que cette lumière vienne. En parenthèse, suivant la préparation, alors il y a une réception de lumière. Ce n'est pas préparation. Pour qu'on puisse accéder à cette lumière, il faut préparer l'antenne. C'est comme s'il y a une émission. Alors Dieu a fait une émission de lumière très grande. Une belle émission de télévision, d'accord? Dieu l'envoie. Mais si je n'ai pas mis en point mon antenne, mes appareils pour recevoir l'émission, ben, ou il n'y a rien qui passe, ou c'est brouillé. On ne sent pas grand-chose. C'est une chose qui est connue. En fonction de la préparation, comme ça, on reçoit l'émission de lumière, on est récepteur de l'émission de lumière que Dieu nous envoie. Prenons un exemple. Quelqu'un arrive de voyage. Il a fait un voyage, New York, Israël, avec trois escales de 5 heures chaque fois. Et enfin, il arrive ici, complètement esquinté. Et il arrive à 3 heures du matin, et il veut s'écrouler sur son lit. Il se rappelle qu'il n'a pas encore fait Arvit. Quelle tête aura sa prière de Arvit ? S'il récite rapidement, déjà en prononçant les mots, on est content. Mais de prière, il n'y a pas de prière. Prenons un cas similaire. Quelqu'un, maintenant, veut passer les fêtes de Rosh Hashanah à la Yeshiva. Il est à New York. Il se bat comme un fou pour avoir 10 billets. Il n'y a pas de billets. À la fin, il réussit à avoir un billet qui passe par 5 escales. Chaque fois, il y a 5 heures de temps. Et après 2 jours de voyage exténuant, il arrive in extremis une demi-heure avant la fête à la yeshiva. Il se douche vite, il arrive maintenant pour Arvi de Rosh Hashanah. Comment il prie son Arvi de Rosh Hashanah? Il est aussi fatigué que le premier. Mais vu qu'il y a aussi une préparation sans cesse en route, il se dit, je vais arriver, comment ça va être? Il se prépare psychologiquement à la grande lumière qu'il va avoir sur le jour de Rosh Hashanah, cette prière. Il est certain que cette prière sera beaucoup plus grande que n'importe quel autre bachour de la yeshiva qui est là déjà. Parce qu'il y a une préparation, pendant 24 heures, pendant 48 heures, psychologiquement, il s'est mis en préparation. Je fais tout cela pour arriver à ce but. Si nous nous préparons pour une fête, il est évident, ça c'est au niveau psychologique, mais au niveau beaucoup plus spirituel aussi, ça fonctionne ainsi, en fonction de la préparation. Parce que, Baruch HaShem, Pessah, on a une grande préparation, le nettoyage, tout cela. Attention, le Hametz, ce n'est pas que le Hametz, c'est les petites miettes de pain qu'on cherche. Hametz signifie, en hébreu aussi, l'Achmit signifie... Chomet, c'est du vinaigre. On dit en hébreu, quelqu'un, Mahmit Panim, il a une tête vinaigrée. Ça veut dire quoi? Il fait la sale tête. D'accord? D'accord. Avec toute la pression de Pessah, qui est grande, il y a un grand danger qu'on va vouloir enlever tout le Hametz matériel qu'il y a ici, les petites miettes de pain. Alors on va le faire, mais ça nous mettra dans une pression telle qu'un petit, une petite étincelle peut tout à coup nous faire exploser une colère terrible. Le Hametz, c'est aussi la colère. La chose qui fait le mieux partir le flux divin de lumière qui arrive les jours de fête, c'est la colère. Tu as tout coupé. Parce que pour recevoir, il faut une neshama. Neshama, ta Neshama, ton âme, elle reçoit le flux. Quand tu te mets en colère, ta Neshama, elle part. Donc tu restes mort, tu n'as plus rien. Tu reçois la place de Neshama du côté impur. Ahman, Salkodu nous préserve de cela. Or, l'éveil de fête, le soir du Seder, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les bêtises que font les enfants, il y a une soirée qui est chargée, on est pressé, on est fatigué, on a faim, on est à moitié rond parce qu'on a bu du vin. C'est très facile de se mettre en colère, arriver à enlever tout le hametz extérieur et surtout le hametz intérieur. Donc, il y a une influence de lumière qui vient chaque fête. Quelle influence spéciale qu'il y a à Pessah? Chaque fête, il y a une influence différente, une lumière différente qui arrive. Quelle lumière qui arrive le soir de Pessah? Celle de la création, la naissance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est né le soir de Pessah à minuit. C'est comme si on était dans la matrice. La matrice, c'était l'Égypte. Et on sort d'Égypte, le bébé, il va naître. Il sort d'Égypte, il y a comme un bébé qui sort, qui déchire le corps de sa mère, on déchire la mer rouge et on quitte l'Égypte et on se réalise en recevant la Torah. Cela a commencé le soir du Seder à minuit. Dieu vient et nous sort d'Égypte. C'est une création. D'ailleurs, à tous les niveaux, la fête de Pessah, elle est la fête de la création, la fête de la naissance, la renaissance du monde. C'est en printemps, c'est marqué Pessah Hag Aviv, Pessah la fête du printemps. Le printemps, le monde qui se remet à renaître. Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer quand le monde était créé. Un dit que c'était à Rosh Hashanah, donc en automne, et l'autre dit non, au mois de Nissan, au printemps. On sait que quand il y a une marloquette dans la Gemara, c'est que les deux sont vrais quelque part. Il y a eu deux créations du monde. Une création, on va dire, au niveau plus conceptuel, une création plus réelle au niveau matériel. Mais il y a eu une création aussi, avant d'avoir une création qui est matérielle, il y a aussi une création qui est conceptuelle, qui est au niveau du concept de Dieu, la réalisation matérielle de Dieu, la réalisation aussi de la volonté de Dieu, la décision de Dieu de créer le monde. Ça, le début du monde, il est, pendant ce mois de Nissan, il est au printemps. Le peuple d'Israël, il est renouvelé. Nous sommes chaque année. On en reçoit une lumière qui renouvelle notre identité juive du peuple d'Israël. On a un peuple différent. Demande à un juif. Est-ce que tu es prêt à devenir non-juif? Tout enlevé. Ça vaut la peine. Sincèrement, ça vaut la peine. Tu as 613 mitzvot en kikinant. Tout ce qui est bon est interdit, en gros, d'accord? Les filles, les crevettes, je sais pas moi, d'accord, tout. Vas-y, pars en Olulu, achète-toi un beau hamac plastique standard de bonne qualité, et kiffe. Oublie, sois goy. Beaucoup de juifs, il y en a qui hélas partiront, oui, bah oui, si tu me dis le choix, bah, je pars en Olulu. Mais il y en a d'autres qui, non, je suis attaché, il y a quelque chose, quoi? Il y a quelque chose qui m'attache. Impossibilité, comment dire cela, viscérale, intrinsèque, essentielle, intérieure, de devenir non-juif. C'est quoi? C'est un truc bidule machin, comme je l'appelle souvent, d'accord? Irrationnel. Pourquoi j'appelle ainsi? Truc bidule machin. C'est pas rationnel, c'est pas catalogable dans des définition matérialiste, scientifique, il y a une sorte de truc bizarre qui fait notre judaïcité, qui fait notre appartenance au peuple d'Israël. Ça, cette chose-là, a été créée la nuit de Pessah, lorsque Dieu nous a sorti d'Égypte, nous a créé le peuple d'Israël. Et ça se renouvelle chaque année. Entre autres, ce qui provoque notre éternité. Ce truc bidule machin, c'est quoi? C'est en fait notre union avec Dieu. Dieu dit, Li Bechori Israël, à moi et mon fils aîné Israël. On est fils aîné de Dieu. Bani Matem Hashem Lokachem, vous êtes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a une relation père-fils, fils aîné. On a une relation avec Dieu, une union avec Dieu. Cette union qui n'est pas dans le domaine matériel, rationnel, scientifique, elle fait que tu as en toi une chose qui te dit, non, je suis différent, il y a autre chose. Ce n'est pas que le fruit de l'éducation. Bon, j'ai été éduqué comme ça, c'est dur pour moi aujourd'hui de ne pas faire kippour. Ce n'est pas ça. Tu ne restes pas juif parce que tu as peur de l'enfer, parce que tu vas aller au paradis. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Tu as une identité qui est au niveau irrationnel, de relation. Des fois, on ne sait pas comment appeler cela. Ça s'appelle une neshama juive. D'accord ? C'est une réalité spirituelle qui me fait m'attacher profondément à ce peuple. Cette neshama est une partie divine. En cela, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes branchés avec lui, unis avec lui. Ça, c'était créé la nuit de Pessah. Dans la Haggadah, on dit « Ve'ish Amda ». Cette promesse, c'est une promesse que Dieu a fait à Avraham Avinu. Je vous cite la Haggadah, que Dieu a promis à Avraham Avinu qu'on partirait en esclavage dans un pays étranger et que Dieu nous sortirait de là-bas. « Ve'ish Amda », c'est cette promesse qui s'est réalisée. Et non seulement en sortie d'Égypte, mais comme on continue le texte de la Gada qui dit, chez Bechol Dor Vador, c'est un des plus beaux passages de la Gada où on recouvre les matzot, on soulève les verres, on dit, Vehi Shamda, chez Bechol Dor Vador, qu'à chaque génération, Kamim Aleinu, chez Loechad Bilvad, que pas un seul uniquement, Kam Aleinu Lachalotan, s'est levé contre nous pour nous anéantir. Et là, mais chez Bechol Dor Vador, chaque génération, Kamim Aleinu Lachalotan, les gens se lèvent pour nous anéantir, bah, que le jour où ça béni soit-il, Matselom et Adam nous sauvent de leurs mains. Tout ce passage, on le dit avec les vers levés, on recouvre les matzot, après on dévoile les matzot et on repose les vers. C'est un grand louange à Dieu. Cette promesse que Dieu a fait à Abraham Avinu, qui nous sortira un beau jour d'Égypte et qu'on serait différent des autres peuples. Plus profondément, la mystique juive, elle explique c'est quoi Vehi Shamda. Elle, c'est elle, grâce à elle, qu'on a survécu. La promesse, ça c'est le sens simple. Il dit, c'est la Shrina. La mystique juive dit c'est la Shrina. La Shrina, la présence de Dieu qui est avec nous. Quand on est branché, Dieu il est là-haut, mais il y a sa présence ici avec nous, qui est dans nos cœurs à nous. La présence de Dieu qui est avec nous, qui fait que nous sommes un peuple indestructible, un peuple éternel, comme Dieu est indestructible, Chas Shalom, comme Dieu est éternel, comme Dieu est indéfinissable, comme Dieu est différent, nous sommes indestructibles, nous sommes éternels, nous sommes indéfinissables, et nous sommes, qu'est-ce que je dis en dernier ?
Différents.
Maintenant, il faut renouveler ça. Parce que j'avais mes ancêtres, mais moi aussi j'ai une âme. Dieu me rend différent, me rend éternel. Quand ? Le soir de Pessah. Il y a une lumière fantastique qui va venir. On va casser, on va expliquer un peu plus tard, on va casser toutes les forces du mal et on va se brancher avec cette lumière extraordinaire de renaissance du peuple d'Israël. À tous les égards, on parle de renaissance, on parle de Bechor. Fils aîné. Fils aîné, c'est quoi ? Tu n'avais rien, du coup tu as eu un fils. La première chose qui vient. On va voir que la Torah met un accent très grand sur tout ce qui est premier. Il y a sept mitzvot, je fais le compte ce matin, sept mitzvot dans la Torah, où on doit sanctifier ce qui est aîné. Le fils aîné, le 30e jour on doit, il appartient encore le 30e jour, on doit le racheter, le rachat des premiers-nés. Un animal premier-né, des animaux qui sont purs, il est saint, on doit l'amener en sacrifice au temple. On n'a pas le droit de le manger comme ça, il est saint. Si quelqu'un va égorger aujourd'hui un fils aîné, un veau, d'accord, il fait un péché qui est sanctionné par le karet. C'est aussi grave que de manger à Kippour ou de manger du pain à Pessah, parce qu'il sacrifie un animal qui est saint à l'extérieur du temple. Tu as l'animal impur, l'aîné de l'âne qu'on doit racheter, qui appartient au code, on le rachète en lui donnant un agneau. Tu as la rechitagèse, la première laine qui vient chez les moutons, et elle a tonte de la première laine. Première laine, il faut la donner à Dieu, elle est sainte, on l'a donnée à l'époque au Kohen. Il y a les bikourim. Tu as un champ, tout à coup tu as les premiers fruits qui viennent, le premier il est saint, il fallait mener au temple à l'époque. Les sept fruits par lesquels la terre d'Israël a été sanctifiée, chaque fois que quand tu as un champ de ces fruits-là, le premier fruit qui sort, c'est une nouvelle figue, une nouvelle date, une nouvelle grenade, etc., une nouvelle vigne, il fallait l'amener au temple, elle est sainte. On appelle ça bikourim.
Chaque année
Chaque année, chaque année.
Et s'il y a une récolte, alors
c'est le premier
qu'on doit amener ?
Non, le premier. Ah. Tu ne l'appelles pas tout seul, tu amènes encore beaucoup de choses avec, mais c'est lui qui est saint. On l'a amené au temple à l'époque, c'est un bikourim, entre Shavuot et Sukkot, Et on est toute une délégation qui venait comme ça. Et dès que la délégation arrivait avec toute la région, tout un village de paysans là-bas, tous ils se mettent ensemble et ils partent comme ça. Avec des bœufs qu'ils mettaient de l'or sur leurs cornes, ils les décoraient, et dessus ils mettaient un grand panier avec tous les bikourim, avec tous les prémices. Et ils arrivaient à Jérusalem, et quand ils arrivaient, tout le monde s'arrêtait de travailler, faisait un cortège, ils les accompagnaient jusqu'au temple, ils arrivaient au temple, et ils posaient ce panier et faisaient un discours de remerciement à Dieu. Que ce discours, qu'on appelle ça Mikra Bikurim, le discours des prémices, c'est la Agada de Pessah. La Agada de Pessah, c'est quoi? On va prendre, en gros, il y a quelques passages un peu avant, après, mais l'essentiel de la Agada de Pessah, on prend les quelques versets qui sont au début de la paracha de Kitavo dans la Torah, qui nous dit, lorsque tu viens de tuer sur ta terre, tu amèneras tes prémices au temple et tu diras ainsi, Arami, Oved, Avi, Arami, c'est Lavan, Lavan, Arami, Oved a voulu anéantir mon père Yaakov. Et après, on est sorti en Égypte, et on a été en esclavage, et on a crié à Dieu, il nous a écoutés, il nous a sortis, il nous a amenés en cette terre-là. Et maintenant, j'amène les fruits que tu m'as donnés au Dieu. C'est en gros ce qui est marqué. Et la Gada va commenter chacun des mots de tout ce passage-là. Ça, c'est la Gada en gros. Donc, on va voir que la Gada, elle parle des prémices. T'as les prémices aussi de la récolte de blé. On appelle ça de blé ou des cinq céréales, ça c'est la Trouma. Réchit, c'est marqué. Il y a la Chala, c'est aussi Réchit. Donc on a en toutes sept prémices, peut-être je vais le répéter rapidement pour voir que je ne me suis pas trompé. L'homme, animaux purs, animaux impurs, les prémices, Chala, Trouma et Réchit Hagez, ça fait? C'est bon, ça fait sept. Réchit Hagez, donc la première tonte. Tout ce qui est premier est sanctifié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la chose qui est première? Premier, on l'appelle, le premier-né, on l'appelle en hébreu Bechor. Vous remarquerez que Bechor, toutes les lettres qui forment le mot Bechor, aîné, ont la valeur de 2. Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Rech, c'est 200. C'est 2 à tous les niveaux. Pour qu'il y ait un 2, il fallait qu'il y ait un 1. Qui est 1? C'est Dieu. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Le 2, il dévoile qu'il y a un 1. Le 1, une chose qui est une, est invisible. Inappréhendable, insaisissable. Quelque chose qui est un, tu peux le voir. Tout ce que nous voyons, la Torah débute par la lettre bête, 2, pour nous dire que tout ce que ce monde a créé avec des limites. Limite, ça veut dire tu as deux. Tu as une chose, elle est limitée, il y a une autre, elle s'arrête. Il y a un autre, hein, il y a le chose et le non-chose. Je vois la table parce qu'elle s'arrête ici et commence le non-table. Je peux concevoir une chose parce que je la vois dans des limites. Ce qui est non délimité, je ne peux pas le concevoir. Je peux imaginer qu'il y a, je peux même pas en image, je peux penser qu'il y a un infini, mais l'imager, le connaître, c'est-à-dire le saisir dans sa totalité, impossible, parce que moi je suis fini. Comment le fini peut voir l'infini? Ce qui est, d'ailleurs, je l'appelle infini, je l'appelle non-fini. Je n'ai pas de définition de ce que c'est de façon intrinsèque. Je le définis de façon négative. Ce n'est pas fini. Parce que le définir dans ce qu'il est positivement, je ne peux pas, parce que c'est hors de moi, c'est beaucoup plus grand que moi. Je peux définir une chose qui est limitée. Parce qu'elle est, elle va par deux. Une chose qui est une, par définition, n'est pas définissable. L'exemple que je donne toujours, imagine que le monde soit d'une seule couleur. Même couleur extrêmement voyante, telle que le rouge vif, phosphorescent. Est-ce que tu... Et toi, tu es né dans ce monde-là. Toute ta vie, la vie dans ce... Tu es rouge, tout est rouge, tout est rouge. La soupe est rouge, le thé est rouge, d'accord. Le feu est rouge, le néon est rouge, tout est rouge. Est-ce que tu remarques que c'est du rouge? Est-ce que tu saisis que c'est du rouge? Est-ce que tu as une perception, je vis dans un monde rouge? Absolument pas. Pour que tu te rendes compte que tu vis dans un monde rouge, il faut que tu aies un petit bonhomme vert qui fait un petit pois vert et qui repart avec sa navette spatiale, sa soucoupe volante. Et toi, tu découvres le petit pois vert et tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est vert? Donc il y a rouge. Quand je vois vert, je comprends qu'il y a rouge. Tu crées le musée du pois vert, tu fais des millions, tu mets une grande pub, comprenez dans quelle vie, dans quel monde vous vivez. Venez découvrir que vous... Et les gens, c'est fantastique, tu n'as pas encore... Tu comprends pas que tu nous vivons dans un monde qui est rouge. Tu dis, mais de quoi tu parles? Tu peux pas imaginer, tu peux pas voir que tu vis dans un monde rouge avant que tu aies vu un pois vert dans ta vie. Tu peux comprendre un, tu peux saisir un quand il y a deux. Le deux, il dévoile le un. Quand Dieu dit... Li Bechori Israël, à moi et mon aîné, le peuple d'Israël, il veut dire le peuple d'Israël sert à dévoiler moi. Nous sommes le dévoilement, nous sommes la manifestation de Dieu sur terre, par notre éternité, par notre indéfinissibilité, indéfinition au substantif, par le fait que nous sommes indéfinissables. Nous disons Dieu existe, par notre Torah, Bezrat Hashem par notre comportement aussi, ce n'est pas toujours le cas. Nous devons dire Dieu existe, par nos souffrances aussi. C'est aucun peuple avec une Shoah. C'est l'horreur dans l'extraordinaire, c'est tu as l'ordinaire, tu as l'extraordinaire. Nous sommes un peuple extraordinaire. Un peuple extraordinaire dans le bien, extraordinaire dans le mal. Mais extraordinaire nous sommes, ordinaire nous ne sommes pas. Tu n'as pas de définition rationnelle du juif, ça n'existe pas, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un peu défini par une terre, c'est pas une race parce qu'on peut se convertir, c'est pas une religion parce qu'on peut ne pas être pratiquant et pourtant on est juif. C'est un truc, machin, indéfinissable. Éternel, en deux mots, la manifestation de Dieu. Oui.
Vous avez dit qu'on ne peut pas saisir l'infini de Dieu. Donc ça veut dire que le seul moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu a, entre guillemets, été un peu moins infini, c'est quand il s'est exprimé au bout d'extrême. S'ils ont entendu, ils ont perçu l'infini dans un truc fini.
C'est marqué que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le ciel et il a collé à la terre. Il a crevé sept cieux, il a pris le ciel et il a collé à la terre. Comme ça dit le Midrash. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fait une sorte de liaison entre le fini et l'infini. Mais quand le fini touche l'infini, il éclate. Donc les Israélites, ils ont dit à Moshe, stop ! On va mourir, nous sommes en train de mourir. Ils sont vraiment morts, c'est-à-dire morts. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a une sorte de dégagement de l'âme hors des corps, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, et ils ont dit, on quitte ce monde. On quitte ce monde. Mais qu'il y avait un feu. Alors, petits enfants, quand il y avait du feu, la montagne Sinaï, il est en feu. Feu signifie consommation de toute matérialité. La seule définition du... Le feu est la seule chose dans le monde, dont la définition est consommation de réalité physique. C'est ça la réalité du feu. Tu consumes le matériel. Il y a une consommation du fini. Il y a eu, tout à coup, en tant que fini, tu te branches avec l'infini. C'est ça que Dieu, c'est une chose que seul Dieu peut faire. Mais le peuple d'Israël a dit, stop, on ne peut pas. On ne peut pas, nous sommes morts. Il y a eu une relation, c'est-à-dire que le peuple a vu les voies. On peut voir une voie, c'est-à-dire qu'il y avait ici une union prophétique, une expérience prophétique de connaissance de Dieu. Prophétique, ça veut dire pas au niveau des sens, c'est pas au niveau des sens, c'est bien plus haut. Donc l'aîné est là pour dévoiler. Il y a 10 commandements lorsque Dieu se dévoile au mont Sinaï. Premier, Anochi Hashem, je suis l'éternel ton Dieu. Parallèlement, c'est intéressant de voir qu'il y a 10 fléaux en terre d'Égypte. Et parallèlement aussi, il y a 10 fois Dieu a parlé de la création du monde. Basara Mahamot Nivra Olama. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Comme ça, c'est marqué dans les maximes des pères. Viomer Elohim. Et Dieu dit. Il y a un rapport entre cela. Le dévoilement de Dieu, il se fait en 10 étapes. La première, le plus haut, Anochi Hashem Lekoach, je suis l'éternel ton Dieu, numéro, première chose, j'existe, me voici, qui correspond à la première phrase de la création, qui est Bereshit. Dans les Vayomer, il se marque 10 fois Vayomer Elohim, 10 fois Dieu a dit dans la création. Mais un de ceux-là, c'est un ordre que Dieu donne au premier homme. Ce n'est pas une parole de création. Alors Chazal dit, c'est quoi la première? C'est Bereshit. Mais Bereshit, c'est pas marqué Vayomer Elohim, mais Dieu a dit. C'est avant. Pour dire, il faut qu'il y ait déjà à quoi dire. Il n'y avait rien avec Dieu. Donc il n'y a pas à quoi dire. Donc première chose, Bereshit Bara Elohim. Pour Reshit, Dieu crée le monde. Il y a un pour. Il y a une volonté dans ce monde. Et dans les 10 fléaux, ça va aller comme ça. Le premier fléau va commencer avec le sang. Le sang, ça correspond au 10e des 10 commandements, au 10e des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est le niveau le plus bas. Et à chaque étape de fléau, Dieu va agrandir sa manifestation. Jusqu'au moment ultime le plus grand, à minuit le soir du Seder, Makat Bechorot, le fléau des premiers-nés. C'est quoi premier-né? Le premier-né, comme je dis, le Bechor, l'aîné, il est là pour manifester. Pourquoi son nom, c'est 2. 2, 2, 2. Il est le 2 qui dévoile le 1. Dans les 10 commandements, Dieu se manifeste. Le peuple d'Israël, il est la manifestation de Dieu. Dieu va tuer tous les autres aînés. Dire, vous n'êtes pas la manifestation. Eux sont manifestation. Le premier des 10 paroles de la création, c'est manifestation. Manifestation de Dieu. Bereshit. Pour Reshit, Dieu crée le monde. Le monde, il est la manifestation de Dieu. Quand il y a un sens au monde. Pour. Il y a un pour. Il y a une volonté. Il y a un pourquoi. Il n'est pas comme ça le monde. Il y a un pourquoi. Il y a un sens. Et dans cette parole, Dieu, pour Reshit, Dieu va dévoiler le sens. Pour Reshit. Reshit, c'est Israël. Reshit sont appelés Israël, la Torah est appelée Israël. Le Gaon de Vilna a dit, Bereshit, pour le mot Bereshit, c'est la racheté vote. Ce sont l'abréviation des mots. Ben Rishon Achrei Shloshim Yom Tifde. Ton premier fils, après 30 jours, tu le rachèteras. Ce n'est pas un jeu de mots qu'on aurait pu mettre n'importe quel mot. Le Gaon de Vilna a dit ça, c'est-à-dire qu'intrinsèquement, Bereshit, c'est la notion de Bechor, premier fils. Ça dévoile la création. Dans son sens, elle dévoile Dieu. Dieu, au premier, dans les 10 commandements, il se dévoile. Béné Israël se dévoile Dieu aussi. Pharaon disait, c'est moi qui ai créé le Nil, et moi-même je me suis créé. C'est comme ça dans le prophète, comme ça dit Pharaon. En Égypte, il n'y a pas de pluie. Il y a la source de tout, c'est le Nil. Le Nil, c'est la source. Ça s'arrête, t'as pas besoin de Dieu, on s'arrange. Quand t'es la sécheresse, t'as besoin de Dieu, t'as besoin de pluie, tu cries à Dieu. Quand t'as pas besoin de Dieu parce que tu as ton île, tout va très bien. Attends, qui est créateur du Nil, source de toute bienfaisance en Égypte? Pharaon dit, c'est moi. J'ai créé le Nil et je me suis créé moi-même. Je suis. C'est moi. Alors, Dieu vient et tue tous les aînés égyptiens pour dire, c'est faux. C'est-à-dire que le Bechor, l'aîné, il dévoile la source. En Égypte, Pharaon dit, c'est moi la source. Tu coupes, il coupe avec Dieu, il n'y a pas Dieu. Ça s'arrête. C'est moi la source. C'est moi Dieu. Il n'y a pas plus haut. Et les aînés en Égypte sont dévoilement de moi, de Pharaon. Dieu, tout cela, et montre, il y a un aîné. Un seul. L'éternité d'Israël est née à ce moment-là. Manifestation de Dieu. Maintenant,
il y avait encore Pharaon comme aîné.
Lui aussi était né, oui. Il aurait dû mourir normalement aussi. Dieu l'a laissé jusqu'à là.
C'était la preuve pour les Égyptiens que Pharaon c'était...
Ouais, c'est pour ça. C'est tout le piège pour aller jusqu'à là. Dieu a laissé encore quelques pièges jusqu'au dernier acte, qui était la traversée de la mer Rouge. Là, et Pharaon, et leur Dieu, tout est mort déjà. Qu'est-ce qu'il veut Pharaon? Quand il dit, je coupe de la source, c'est moi la source. Si on coupe de la source, alors on est perdu. Regardez dans le corps, on a la tête. Quand la tête, elle dirige le corps, alors on sait où on va. Si tu coupes la tête à quelqu'un, il est mort. Ah, pourtant, la majorité du corps est encore là. Tu as coupé qu'une petite partie. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Au niveau spirituel aussi. Quand la tête, les choses sont claires dans la tête, alors le corps, il suit. Quelqu'un a des doutes dans la vie. Il ne sait pas. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Où est l'essentiel? Mes études, la yeshiva, la Goya, la Juive, Kacher, la prière, Tef, je ne sais pas, n'importe qui là, des doutes. Si il va à la source des choses, et ça se clarifie, il n'a plus aucun doute. Pourquoi? Quel est le but de ta vie? Va à la source. Il y a un monde. Ce monde a un but. Il y a un créateur. Tu t'inscris dans ce but. Si ces choses-là sont claires, si quelqu'un il comprend maintenant le pourquoi, il comprend qu'il y a un sens à sa vie. et comprend qu'il y a un créateur et que son sens doit s'inscrire dans le sens que le créateur a voulu, plus aucun doute. Mitzrayim, c'est mal arraché, Metzar, Tsar. Tsar signifie étroit. On a aussi un mot en hébreu qui vient de la même source, Tsadikiresh. Tsar, c'est Tsavar, le cou. Le cou, c'est l'endroit qui est Tsar, qui est le plus étroit chez nous, et qui fait en fait la liaison entre la tête et le corps. L'Égypte, c'est là. Nous, on est en relation avec la tête, avec la pensée, avec Dieu, la source. Quand je suis branché avec Dieu, tout va. C'est très clair, je vais tout droit. Ma vie est claire. Je suis en bonheur, je suis en joie. Je suis branché avec l'infini. Pharaon, d'ailleurs en parenthèse Pharaon, c'est les mêmes lettres, lettres inversées du mot Oref. Oref, c'est la nuque, de nouveau. Celui qui s'attache là, tac. Il s'attache ici. Il veut couper. Dire, t'as pas de contact avec là-haut. C'est moi, la base de tout. De moi, tout vient. Il y a d'autres qui a succédé, et ce pharaon, il revient chaque génération. C'est Amalek. Qu'est-ce qu'il va dire Amalek? C'est marqué Réchit Goïm Amalek. Le premier des Goïm, des peuples, c'est Amalek. Il est premier, mais pas premier de la spiritualité. Premier des Goïm. Goï, ça vient du mot Gvia, corps. Corps. Le premier des corps. Ce qui est le premier, c'est le corps. Il y a le corps, arrête, c'est là que ça s'arrête. Plus haut, il n'y a pas. Il prend les circoncisions de Bnei Israël, Brit Mila, qui est une alliance entre Dieu et nous, et les jette vers le ciel. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de Dieu. Laisse tomber. Ce que je vois, je crois. Réchit, je suis la base. Dieu dit, pour Réchit, j'ai créé le monde. Mais Réchit Israël, qui manifeste, moi. Amalek dit, on coupe. C'est moi le premier. Pharaon dit, on coupe. C'est moi, à la nuque. Tac. Dieu vient le soir de Pessah, casse cette force négative de l'Égypte, de l'étroitesse ici, et nous rebranche avec lui. Pourquoi est-ce qu'on était coupé comme ça? Parce qu'il faut comprendre que lorsque Dieu dit à Abraham que je vais envoyer ton peuple en esclavage et qu'on a souffert un esclavage terrible là-bas, c'est pas comme ça pour rien. D'abord, c'est pour recevoir l'éternité, être branché avec Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas l'avoir dès le début comme ça, hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes les âmes du premier homme qui a péché, après il y a eu des générations de réincarnation du peuple juif, c'était le déluge, après d'abord c'était la génération de Enoch, qui après a commencé à faire Avodah Zarah, le petit-fils de Adam, après le déluge, après Sodome et Gomorre, après la tour de Babel, il y a eu de descente en descente de ces âmes-là, jusqu'à ce qu'il y ait besoin d'aller dans le cour à Barzel, dans la fournaise de l'Égypte, cour à Barzel, la traduction en français, cour, l'endroit où on fond le fer, comment ça s'appelle?
Le creuset
de fer, l'Égypte, pour enlever toutes les impuretés, pour purifier et qu'on puisse sortir. Ça l'Égypte. Nous rebrancher avec la source. Et à chaque soir du Pessah, on se rebranche. D'abord, on va aller, la veille de Pessah, on va aller brûler le Hametz. 10 petits morceaux de Hametz correspondent aux 10 sphères du mal. Toutes les forces du mal, on les brûle, on les cherche partout, dans les petits recoins, tout ce qu'il y a partout, dans les recoins de nos âmes, tout ce qu'il y a de mal. On le brûle. Après, on va se brancher. Se brancher, c'est le seder, c'est l'ordre. L'ordre pour que la lumière, elle passe. Comment ça passe? Ça va passer par les matzot et par tout le plateau, tout ce qu'on va faire le soir du seder. On va peut-être expliquer un tout petit peu. La source de la vie, c'est ce branchement qu'on a avec l'infini, avec Dieu. Par où se fait ce branchement? Par notre tête. La connaissance. Connaissance, on appelle cela dat. Il y a trois sortes de connaissances. Chorma, Bina et dat. Chorma, c'est la connaissance au niveau premier. Bina, c'est plus approfondi. Et dat, c'est ribour. Dat signifie toujours liaison. C'est la liaison avec mon corps. L'expression pratique, l'expression de ma connaissance. Premier niveau, chorma. Savoir, la connaissance, première. La mystique juive dit que Chorma, même alors que le mot Ha-Chaim, la vie. Quand tu sais, tu vis. Quand tu ne sais pas, tu ne vis pas. Quand tu sais peu, tu vis peu. Si tu vas maintenant brancher ta tête avec la connaissance du pourquoi de ta vie, tu sais pourquoi tu vis intensément ta vie. pourquoi je dors, pourquoi je dors, pourquoi je mange, pourquoi je marie, pourquoi j'ai des enfants, quel est le sens de ma vie? Si tu ne sais pas, tu viens à côté, tu rates. Rat signifie en hébreu, on appelle ça chet, chet. Les gens traduisent par faute, c'est pas faute. Chet signifie rater. Tu passes à côté. Un exemple que je prends souvent, celui du métier d'œnologue, goûteur de vin. Un œnologue, il va goûter un vin, il va dire ce vin-là, il vaut 5000 euros. Délicieux, fantastique. Tu donnes à quelqu'un d'autre à goûter, je ne vois pas de différence entre celui-là, celui qui a la bouteille à 10 euros et à 5000 euros. Ou la différence sur la langue, la différence n'est pas dans la langue, l'œnologue et l'homme simple, il a la même langue exactement, le même nombre de papilles gustatives, la même sensibilité. Alors pourquoi un, il vit la chose, il la sent et l'autre ne la ressent pas, bien que les deux boivent. Parce que l'un, il a la connaissance, il a appris. Lorsque la langue envoie des messages nerveux, il traduit ces messages en jouissance. Il perçoit. Une chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas la percevoir. La vie, pour vivre une chose, il faut la connaître. Ça passe par la connaissance. Après, il faudra intégrer la connaissance, bina, et que cette intégration soit bina ben, b, ça vient de l'intérieur, it bonen, réflexion intérieure, intégrer à l'intérieur cette connaissance, la bina, et après, réalisation, l'expression, c'est-à-dire que tu deviens toi-même par rapport à ce que dit ta tête, ton corps, tu t'exprimes, tu parles d'après ce que dit ta tête, tu vis d'après ce que ça, c'est date, date, ribour, date égale liaison. C'est marqué « Vadam yadai chava » et l'homme, premier Adam, a connu chava, il a su chava. C'est quoi? Et c'est marqué qu'elle a enfanté, Caïn et Abel. Il a su, c'est pas, il lui a dit « Hello ». Il y a eu une liaison, une union entre les deux. Date égale union. J'unis ma connaissance, ma chokhma, c'est-à-dire la connaissance, l'information que j'ai eue, je l'unis à moi-même, je l'intègre et je l'exprime. En cette fête de Pessah, on va faire un travail, après qu'on a brûlé tout le mal, on va faire un travail de s'unir avec Dieu. C'est un truc que je n'ai pas vu écrit, j'ai pensé à ça aujourd'hui, la matzah. La matzah, c'est marqué que les trois matzot correspondent, les trois matzot qu'on sur le plateau correspondent à Chorma Bina Vedat. Et pourquoi la matzah? La matzah, qu'est-ce que c'est? C'est du pain. La nuance entre la matzah et le pain, c'est que le pain, on le laisse fermenter, on met beaucoup de choses aussi pour que ça fermente bien, ça fait un bon pain. La matzah, c'est sans tout cela. C'est la liaison entre la farine et l'eau au niveau le plus pur, sans fermentation, sans rien. Tu prends rapidement, tac, tu mets au feu, terminé. De la farine et de l'eau, c'est tout. Pourquoi on a mis ça tellement grande de manger la matzah ce soir-là? Pourquoi est-ce que la matzah est appelée Chochma Bina Vedat? Pourquoi c'est si grave le chametz? Il faut savoir que le pain, en général, le pain, l'echem, ça correspond aux dates. C'est marqué que le Etzadat, l'arbre de la connaissance, c'était le blé avec lequel on fait le pain. Et quand un enfant, il mange kazaït de pain, alors on dit qu'il a déjà du date. Il s'est déjà appelé papa et maman. Le date, la connaissance, et là, il y a une corrélation entre le pain et le date. C'est marqué dans beaucoup d'endroits. Lechem, pain, signifie union. Soudre en hébreu, on dit lehalchim. Lehalchim signifie, si on prend la racine lehem, c'est souder. Au niveau physique, c'est quoi? Tu as pris de la poudre, de la farine, tu as pris de l'eau, et tu l'as soudé ensemble, tu as créé une nouvelle création. Je crois que même au niveau de ce que nous mangeons, il n'y a aucune chose qui est pareille, qui est vraiment une farine et de l'eau mis ensemble, et ça crée quelque chose d'autre. On a une chose pareille. On vit. Lehem, c'est le secret de la vie. C'est le secret de l'union. J'ai pensé que l'eau, c'est l'union, c'est le côté qui vient de Dieu. D'accord, l'eau, c'est ce qui tombe. C'est pur, ça vient du ciel. C'est spirituel. L'eau, c'est la source de vie. La farine, ça provient du blé, c'est ce qui pousse de la terre. C'est toujours, il y a une influence qui vient d'en haut, et nous qui faisons d'en bas, et l'union des deux. L'union de Dieu, c'est le pain. Alors d'habitude, notre union, elle est sabotée, elle est fermentée, il y a des ajouts, il y a eu le péché originel, il y a eu toute ma relation avec Dieu qui est, tous les écrans qu'il y a, de tous les ratés de ma vie, de toutes les impuretés qu'il y a dans ma vie. on veut, ce soir de la naissance du peuple d'Israël, on veut rétablir maintenant la liaison pure. Alors on prend la matzah, qui est la liaison entre la terre et le ciel au niveau le plus pur, la farine et l'eau amalgamées ensemble. C'est le début de cette lumière qui descend. Après on fait tout le soir du seder, les verres de vin, eux aussi correspondent Chochmah Bina Vedat. Il y en a quatre, parce qu'il paraît que le dat, il se sépare en deux aussi. Dans le seder, on va manger les deux, on va boire les deux premiers verres de vin, après on mange, après on boit les deux derniers verres de vin à la fin du seder. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait le Birkat Hamazon et le Hallel. L'apothéose du seder, c'est le Hallel, la partie que tout le monde fait rapidement, parce qu'ils sont très fatigués, à moitié ronds déjà. Le Hallel, c'est la louange à Dieu. Le Maharal de Prague, il dit que le Hallel de cette nuit du seder est différent que les autres Hallel. Hallel, il faut dire le Hallel. Là, Hallel signifie une louange, il faut, en hébreu, le mot shir. Shir, il n'y a pas de traduction en français par chanson, mais ce n'est pas chanson. Shir, lorsque les Israël traverse la mer Rouge, ils font un shir à Dieu. Quand il y a un grand miracle, on fait un shir. C'est une louange, le niveau le plus haut de louange qu'il puisse y avoir. On doit le faire en tant que louange. C'est-à-dire que l'expression, on avait dit que les deux derniers vers correspondent aux dates, Chorma, Bina et Dat. Dat, c'est l'expression de mon union à Dieu. La fête s'appelle Pessah. Rabbeinu Ari dit, c'est quoi Pessah? Paix, la bouche, ça raconte. Lorsque tu as une union avec Dieu qui est tellement grande, cette lumière qui vient est tellement grande, le soir de Pessah, que ça s'exprime à l'extérieur. Je vis. Ça commence par la chokhmah, ça descend, et tout à coup, ça vient dans date, c'est-à-dire que j'intègre complètement et j'exprime cette lumière qui vient. Je suis sorti d'Égypte. Je suis éternel. Je suis l'enfant aîné de Dieu. Je suis la manifestation. Je suis branché avec Dieu. Fini Pharaon. Fini Amalek. Pur.
Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle la prière sur le pain est si importante que ça. Le Birkat Hamazon, le motzi, etc. Parce que
le pain, c'est la source de vie. Sans pain, tu meurs. Alors,
on peut vivre sans pain, c'est pas...
Ok, on va dire c'est la nourriture essentielle de l'être humain. Normalement. Alors, on pourrait dire... Alors ok, j'ai besoin de pain. Alors il y a un verset qui dit « Lo alechem vado chi adam » pas que sur le pain l'homme vit. « Kal kol motza pi Hashem chi adam » toute la parole de Dieu. Alors tu as la vie physique, le pain, mais tu as le pain plus spirituel qui est l'echem, l'echem union, l'union avec Dieu. Et nous on veut ce soir une union pure. Le flux de lumière qui vient ce soir est tellement grand. Pour recevoir ce flux, j'ai expliqué qu'il fallait d'abord se préparer. Alors, il y a des préparations qui durent toute la semaine avant, le nettoyage, on brûle le hametz, etc. Et le soir même, on commence par se laver les mains. Trois fois, on se lave les mains durant ce seder. Et aucune soirée, on se lave les mains trois fois. Le maïm, n'est-il là avant le karpas, n'est-il là avant le repas, et maïm achronim. Mais ce que je lui dis, c'est pour que tu puisses recevoir maintenant le kadesh. Kadesh, c'est la sanctification. Kadesh, Urechatz. Normalement, on devrait se laver les mains avant le Kadesh. La lumière qui vient... Alors, j'explique. L'Urechatz, c'est quoi se laver les mains? C'est mettre, nettoyer l'impureté pour mettre en place les antennes réceptrices de la grande sainteté qui va venir maintenant. Qui est celle, comprenez bien que ce qui se dévoile maintenant de la lumière, c'est celle du Bechor, nous sommes aînés, c'est la même que Anochri Hashem, c'est celle du premier des dix commandements, je suis l'éternel ton Dieu, celle de Bereshit. La même lumière de création du monde, la même lumière du premier des dix commandements, Dieu se dévoile ce soir-là. Kadesh, première chose, lumière extraordinaire. On devrait vraiment se laver les mains avant pour recevoir cela. C'est vrai que la lumière est tellement grande, ça traverse même qu'on ne s'est pas encore lavé les mains. Ça, première chose, Kadesh, tu te sanctifies. Après, Ochatz, ok, tu te sanctifies maintenant, lève-toi un peu les mains, tu te laves les mains. Et Karpas, tu commences à poser des questions pour que les enfants posent des questions. Après Magid, tu t'exprimes. Après la Matzah, l'union. Maror, même, on a expliqué que Maror c'est l'amertume, c'est la mort. On va adoucir, même que dans ce monde-là on est en obscurité, etc. On adoucit, on se branche avec Dieu. On adoucit, on le trempe dans la Chaoset. Et pour finir, le Hallel, la grande louange à Dieu, de remerciement que Dieu nous a donné cette grande fête. on est censé toute la nuit rester réveillé, et toute la nuit il y a cette influence. Comment, qu'est-ce qu'on dit la nuit encore, Shira Shirim, une histoire d'amour. Le but c'est ça. L'expression vécue de ma relation avec Dieu s'appelle amour. Le louange à Dieu, Hallel, tu fais Roméo ou Juliette, tu lui fais un poème. Et après, Shira Shirim. Shira Shirim, histoire d'amour de notre relation.
C'est Hayav, Shira Shirim ?
C'est pas Hayav, c'est pas obligatoire. Mais c'est dans le sens de la soirée.
Mais qu'est-ce qu'on doit éprouver en fait ? Ça veut dire, c'est bon, on comprend qu'on reçoit une lumière
oui.
spirituelle, etc. Mais c'est...
Regarde, on parle pas de choses qui sont rationnelles. Nous devons faire les choses comme on doit les faire. Maintenant, en fonction de notre sensibilité au niveau de notre âme, de notre pureté, il y a des gens qui peuvent arriver à ressentir des choses, comme le Shabbat. Des gens qui sont de Shabbat. Bien que, bah, qu'est-ce que tu ressens ? Vas-y, explique-moi que tu ressens le Shabbat. C'est calme. C'est pas ça. Le week-end aussi, c'est calme. Le dimanche aussi, il peut être calme. Il y a autre chose. Alors aussi, ce soir-là, si on a de la chance, c'est pas toujours qu'on a cette chance-là, il faut pas s'énerver, il faut être en pureté, il faut que bien tout soit... Normalement, il y a une grande lumière. Si nous l'apercevions pas, ça change pas grand-chose. C'est un petit bonus que tu l'aperçois. Ton âme l'aperçoit. Tu gardes ton identité de peuple. Oublie tout ce que je dis, au niveau spirituel, le plus bas. T'as dit à ton fils maintenant, nous étions en Égypte, on aurait pu rester dans la matérialité. On s'est rebranché avec Dieu et ça fait que nous sommes un peuple éternel depuis toujours. Ça fait 3200 ans que ce peuple existe. Le fils, il fait le céder tout bêtement, mais il voit la belle table mise, il voit qu'on se met de côté, il voit qu'on mange un matzah, il voit les belles herbes, il voit qu'on parle, c'est une grande fête. Ça imprime son âme. De quoi ça l'imprime ? Alors, au niveau le plus bas, psychologiquement, il est demain que la Goya lui dit, ok, je suis juif. Mais beaucoup plus que cela, au niveau de son âme, il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et de nos âmes, des choses qui se passent à ce moment-là.
Et donc, ce qu'on doit avoir à l'esprit.
Que nous percevions ou pas.
D'accord, mais ce que l'on doit avoir à l'esprit, c'est donc ça, c'est la sortie d'Égypte pour un monde spirituel, c'est ça
En deux mots, nous sommes nés à ce moment-là, notre identité a été faite à ce moment, notre identité égale branchement éternel avec Dieu. Et ça s'est fait ce jour-là. Et ça se refait chaque année ce jour-là. C'est vraiment en deux mots. Baruch Adonai, l'olam amen va'amen.